Notre glaneuse du jour est Marie Mandy. Son enfance débute dans la ville de Louvain avec des parents professeurs de l'université. Elle avait 8 ans quand la famille part pour le Congo où elle découvre la liberté, la nature. Sa vocation de cinéaste est très précoce. À 12-13 ans, elle sait déjà qu'elle veut faire ce métier.
Le cinéma de femmes, c'est pas aussi simple que ça.
Les femmes réalisatrices et les films de femmes, ça délie la parole.
Nous étions à 23% de femmes.
Quoi qu'on fasse, ça a quand même une portée politique.
Ça, c'est du cinéma.
C'est vraiment une détestation du corps des femmes qui est organisée.
On est la deuxième moitié de l'humanité. Notre regard manque dans le monde.
Je suis née en Belgique, à Leuven. Je suis l'aînée d'une famille de 6 enfants, avec des parents qui étaient tous les deux professeurs d'université. Et je dirais que la partie de mon enfance qui m'a la plus marquée et laissé des traces, c'est la période où nous avons vécu au Congo. À l'époque, c'était le Zaïre, et c'était vraiment fondateur. Donc j'avais 8 ans, de l'âge de 8 ans à 14 ans. La première partie de mon enfance, jusqu'à l'âge de 8 ans, c'était une enfance tranquille en Belgique. J'ai pas énormément de souvenirs. J'ai un souvenir qui est peut-être celui qui m'a vraiment rapproché de l'image. C'était, je devais avoir 6-7 ans, et ma mère photographiait beaucoup. Elle avait un vieil appareil, ce qu'on appelait un Voigtlander à l'époque, c'est un appareil un peu sophistiqué. Et je crois qu'elle voulait porter la pellicule, la développer. Il restait 7 ou 8 photos. Elle m'a dit, bah, tiens, finis le film. Et il y avait un bouquet de lys sur la table. Et en fait, moi, j'ai tourné autour du bouquet et j'ai fait 6 ou 7 photos du bouquet dans des points de vue, des axes différents. Et après, quand la pellicule est revenue du laboratoire, mes parents m'ont dit, mais enfin, pourquoi t'as photographié ? T'as fait 7 fois la même photo. Je dis, mais non, ça n'est pas 7 fois la même photo. C'est vraiment chaque fois différent. Et je pense que c'était cette idée qu'en fait, on peut découper des morceaux de réel et les assembler est vraiment le point de départ de mon attrait pour les films et la photographie. Je suis allée assez peu au cinéma, quelques fois à la cinémathèque avec mon père qui m'a montré quelques classiques. Et donc en fait, je ne suis pas du tout cinéphile. En fait, mon background, mon inspiration, elle ne me vient pas du cinéma. Elle vient vraiment des arts plastiques, de la peinture, beaucoup. Si j'ai besoin de m'inspirer pour un film, je vais aller voir des expos. En fait, je vais chercher des images. Comme j'étais pas cinéphile et que j'avais pas la télé, en fait, moi, j'ai très très peu vu de documentaires quand j'étais jeune. Et en fait, mon premier contact avec le documentaire, c'était dans une année de scolarité que j'ai faite aux États-Unis à l'âge de 14 ans. Parce qu'après avoir vécu 6 ans au Congo, on est parti vivre aux États-Unis un an. Et dans cette école publique américaine, on nous montrait énormément de films. Et j'ai vraiment découvert en fait, qu'on pouvait apprendre avec des films. J'ai découvert la puissance à la fois pédagogique du récit, mais aussi de l'image. Alors après, moi, l'envie de devenir cinéaste, ça a commencé très tôt. Je pense qu'à l'âge de 12-13 ans, je m'étais dit que je voulais être cinéaste. Parfois, j'en parle comme d'une vocation. Alors quand je dis ça, ça fait vite prétentieux. Hein. On se dit, ouais, c'est un peu... Mais en fait, ce que j'aime dans l'idée de la vocation, c'est que c'est un appel qui est plus fort que nous. En fait, c'est un truc à quoi on ne peut pas résister. Et donc, je ne peux absolument pas imaginer de faire autre chose, parce que de toute façon, je ne peux pas m'arrêter. Alors, c'est peut-être aussi pathologique, en fait, comme rapport à nos métiers. Mais c'est vrai que c'est un appel plus fort que moi. J'ai fait, après avoir fait des études universitaires à Louvain-la-Neuve, j'ai fait une licence en philologie romane. J'ai fait un mémoire sur la fiction dans le discours photographique. Donc déjà, de nouveau, cette idée que, en fait, la photographie qui est censée traduire le réel est en elle-même déjà une fiction. Et après donc avoir fait ce mémoire, en fait, je suis partie faire des études de cinéma à Londres, à la London International Film School. Après mes études à Londres, j'ai réalisé une première fiction. Et en fait, ce court-métrage, j'ai eu la chance qu'il reçoive le prix Canal Plus au Festival Tout Court à Aix-en-Provence. Et puis après ça, j'ai créé ma société de production Amazon Films, dans l'idée de pouvoir faire mes propres films. Donc en fait, dès que je suis sortie de l'école, j'ai tout de suite commencé à travailler. En fait, j'avais envie surtout de faire la fiction, parce que pour moi, c'était en fait, le seul cinéma envisageable. C'était aussi celui que j'avais appris à l'école, surtout. Mais je me suis heurtée à un problème qui était celui de l'écriture des scénarios. En fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment une visuelle et que je n'étais pas faite pour écrire des histoires sur papier, pour les inventer. En fait, je n'ai pas d'imagination. Je ne peux pas inventer des histoires comme ça. Et donc, j'ai besoin de m'appuyer sur le réel pour en fait partir de choses qui existent. Et donc, c'est en fait le documentaire qui m'a permis d'entrer dans cette veine-là, cette manière-là de raconter des histoires. Mais je n'ai jamais été intéressée de filmer le réel tel qu'il est. Il y a une grande veine du documentaire qui vient du cinéma ethnologique, ethnographique, qui consisterait à aller filmer des personnes, des peuples, des situations telles qu'elles sont. Et moi, je n'ai jamais pratiqué ça, en fait. Je suis incapable de faire ça. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de d'écrire avec des bouts de réel une histoire qui traduit ma propre vision du monde. Moi, je fais des films à partir d'idées. Par exemple, je suis partie sur un truc très, très conceptuel. C'est quoi la vision mentale des aveugles? Je me suis dit, ben, moi qui suis réalisatrice, je suis obsédée par, en fait, par la vision, par l'image. Et donc, qu'est-ce que c'est une tête d'une personne qui ne voit pas ou qui ne voit plus? Qu'est-ce qu'il y a comme image dans sa tête? Et donc, partant de cette idée, j'ai essayé après de construire un récit. Mais donc ça veut dire qu'après, je fais des castings de personnages pour trouver des personnes qui peuvent me parler de ça de manière tout à fait... avec une expertise de comment on décode l'image quand on ne la voit pas. Je cherche des situations, je lis des bouquins, je lis des essais. En fait, beaucoup de mes documentaires sont des adaptations d'essais, d'une certaine manière. Le film sur ma grand-mère, mais il n'est pas parti de l'envie de faire un film sur ma grand-mère. Il est parti d'un intérêt que j'avais pour la question du secret de famille et de ce qui n'était pas dit et pas raconté dans le transgénérationnel. Et j'ai vu qu'en fait, je pouvais l'incarner dans le personnage de ma grand-mère, parce qu'elle-même, elle avait vécu une vie un peu particulière pour une femme de sa génération, puisqu'elle a été lobotomisée vers le milieu de sa vie, parce qu'elle souffrait énormément... de dépression, je pense qu'en fait elle avait une sorte de, ce qu'on appelait à l'époque une sorte de maladie mélancolique. Son mari, mon grand-père, qui était psychiatre, pensait qu'en coupant quelques connexions dans le cerveau, en fait, ça lui permettrait de moins souffrir. Et donc je trouvais ça absolument incroyable, et d'autant plus incroyable que ça n'avait pas été raconté dans la famille. Flottait un espèce de secret là-dessus. Et donc, c'est pour explorer ces questions que j'ai fait un film sur ma grand-mère. Après, c'est vrai que j'étais intéressée aussi de faire le portrait d'une femme qui avait traversé le siècle, qui était une femme cultivée, lettrée, à qui qu'on a empêchée de travailler, alors qu'elle aurait tellement voulu. Donc c'est aussi toute la condition de la femme qui traverse ce film. Mais c'est vraiment parti de l'envie de traiter de la question du secret de famille. C'est le résultat... d'une très forte interrogation à la fin de mes études. C'est même venu de la question d'un journaliste qui, après avoir vu mon premier long-métrage de fiction, pardon, Cupidon, m'a dit « Mais on voit que ce film a été filmé par une femme, tourné par une femme. » Et je me suis dit « Ah bon, pourquoi il dit ça ?» Alors c'est vrai qu'il y avait des scènes d'amour dans le film que j'avais voulu faire différentes, enfin différemment de ce qu'on voyait beaucoup à l'écran. Je voulais plus exprimer des sensations que l'acte sexuel même. Donc j'avais cherché à exprimer ces sensations. Mais c'était juste intuitif, quoi. Je ne m'étais absolument pas posé la question de qu'est-ce que c'est faire un film en tant que femme à travers un corps de femme. Et cette question de journaliste m'a tellement hantée que je me suis dit, mais il faut que je réfléchisse à ça et que je fasse un film pour répondre à cette question. Et donc, j'ai décidé de faire un documentaire qui s'appelle « Filmer le désir, voyage à travers le cinéma des femmes », où je suis allée voir une quinzaine de réalisatrices de fiction à travers le monde pour leur demander comment elles filmaient en tant que femme, en quoi, en fait, c'était différent. Ce film, d'ailleurs, 20 ans plus tard, aujourd'hui, il a 20 ans, il est toujours distribué dans les universités américaines. Il a été vendu à plus de 250 universités américaines qui l'utilisent justement dans leurs études de genre. Donc c'est un documentaire qui a, en tout cas, pour moi, répondu à des questions fondamentales et posé les bases de quelque chose, à travers la parole de ces femmes. Mais donc ça a changé ma vie de faire ce film. Parce qu'à partir du moment où j'ai moi-même regardé pendant des mois et des mois que des films de femmes pour essayer de trouver des scènes qui m'intéressaient, j'ai réalisé que mon regard changeait, en fait. Et je me suis rendu compte que, de manière très naturelle, j'avais toujours considéré comme acquis que, bah oui, moi, je pouvais m'identifier à James Bond et à n'importe quel héros masculin. Mais après avoir vu tous ces films de femmes, ça a commencé à me déranger. Et je me suis dit, mais donc, ça s'apprend. Et me disant cela, je réalise qu'à l'école de cinéma, mais j'ai appris le cinéma qu'à travers des films faits par des hommes. Je ne pense pas avoir vu un film de femme dans tout ce qu'on m'a montré à l'école. Encore une fois, c'était il y a 30 ans. Et donc là, je me dis, mais mon Dieu, mais donc comment on se construit un regard à partir de cette double expérience du monde, les films réalisés par des hommes, les films réalisés par des femmes. Donc, je veux dire, tout à coup, ça amène l'idée que le féminin et le masculin circulent de manière évidemment beaucoup plus fluide et en même temps étrange qu'on ne le pense. Ce n'est pas deux catégories. Mais c'est tout ça qui a ouvert les études de genre. Enfin, aujourd'hui, on sait tout ça. Mais quand moi, j'ai démarré, ce n'était pas du tout des choses qu'on apprenait. Et donc, j'ai fait par moi-même cet apprentissage.
Le premier geste féministe, c'est de dire, bon, OK, on me regarde, mais moi, je regarde. L'acte de décider de regarder, et que le monde n'est pas défini par comment on me regarde, hein, mais comment je regarde.
Donc, j'enseigne l'écriture du documentaire. C'est-à-dire comment, effectivement, on part d'une idée ou d'une envie pour trouver un sujet et arriver à écrire un dossier qui va permettre de produire un film. L'écriture du documentaire est en fait une sorte d'aberration, si on y réfléchit bien, parce qu'on nous demande d'écrire un dossier complet, un déroulé de film, pour une chose qui n'est pas encore advenue. Et donc, au fil des ans, moi, j'ai mis au point un certain nombre d'outils que j'utilise pour moi-même et donc que je partage avec mes étudiants. J'essaye de développer la créativité des étudiants pour qu'ils puissent imaginer mieux ce qu'ils vont filmer, comment ils vont le filmer. Bien sûr, ça s'appuie sur des repérages, ça s'appuie sur des interviews préparatoires, ça s'appuie sur des enquêtes qu'ils font, ça s'appuie sur des notes d'intention extrêmement fouillées, parce que pour moi, un documentaire de création est forcément relié à nos tripes. Enfin, il faut qu'ils partent de quelque part dans le ventre. On a un rapport personnel à ce sujet. Alors souvent, on ne le sait pas. Moi, il y a certains films que j'ai faits parce que je voulais répondre à une question, et ce n'est que quand le film a été terminé, en fait, que je me suis rendu compte de mon lien très émotionnel ou personnel à cette thématique ou à cette histoire. Donc on ne sait pas toujours pourquoi on veut faire des films. D'ailleurs, moi, c'est ce qui me porte. Parfois, je porte pendant des années des projets, et je me dis, pourquoi tu veux faire ce film? En fait, je ne sais pas, mais je sens que je ne peux pas arrêter. C'est un truc, ouais, ça vient des tripes, c'est fort, et c'est une espèce de moteur incroyable qui me pousse. Et donc, quand j'enseigne le documentaire, j'essaye d'inviter les stagiaires, les étudiants, en fonction des endroits où j'enseigne, à essayer de se reconnecter à ce désir profond, parce que c'est ça qui va être leur moteur, leur jus pour pouvoir faire le film. Et donc, à partir du moment où on est connecté à ça, mais comment on fait pour l'utiliser, pour produire un texte, un récit, et comment on transforme des idées en narration comment, en assemblant des bouts de réel, on arrive malgré tout à raconter avec une dramaturgie qui fonctionne. Voilà. Ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, c'est les femmes rebelles, les femmes résistantes, celles qui, forcément, poursuivent leur vie pour se réaliser. Et j'ai découvert qu'il y avait des femmes qui avaient la vocation pour devenir prêtres. Alors cette question de la vocation, évidemment, elle me touche beaucoup, parce que je vois bien que c'est ce qui donnerait du sens à leur vie. Et elles disent, et c'est dingue, on ne peut pas parce que l'Église nous l'interdit, mais enfin, on a été appelés par Dieu. Alors moi, je suis pas croyante, mais je trouve ça dingue qu'on empêche ces femmes de se réaliser. Et donc, j'ai envie de faire un documentaire. Je suis en train de produire un documentaire sur le parcours de ces femmes et comment elles font pour entrer en résistance au cœur même de l'Église, dans le but, de répondre à cet appel qui les dépasse, cet appel de Dieu d'en haut, je ne sais pas d'où il vient, et qui les pousse dans la vie à mener ces combats. Mais donc, c'est ce genre de film, en fait... Ouais, me permet de donner la parole à des merveilleux personnages qui ont vraiment un idéal formidable.
Depuis plusieurs mois, j'ai une boule à mon sein droit. Je redoutais que ce soit un cancer et j'ai mis du temps avant de m'en occuper. J'espérais qu'elle disparaisse toute seule. La personne qui partage ma vie m'a dit « Démerde-toi pour guérir, tu pourrais en faire un film ». Je suis malade, c'est vrai, mais je suis avant tout cinéaste. Pourtant, l'idée de faire un film m'a d'abord effrayée. Et si c'était une fuite qui m'empêchait de faire face à la maladie?
Évidemment, j'ai aussi une relation particulière au documentaire que j'ai réalisé quand j'ai eu un cancer du sein, qui n'était pas un documentaire sur moi, mais qui était un documentaire dans lequel je m'utilisais pour parler en fait, de ma conception de la maladie. C'est-à-dire que je pense que la maladie est un état de déséquilibre et que donc... elle a toujours un sens, et que donc c'est important de comprendre le sens de la maladie pour pouvoir en guérir. Et donc le film parle de la question de la guérison holistique, cette guérison totale où justement on fait appel à la médecine intégrative. On associe différentes manières de se soigner pour arriver à retrouver cet état d'équilibre en soi. Alors dans le dernier film que j'ai réalisé, Les femmes préfèrent rire, en fait je donne la parole à des femmes humoristes, mais ce qui m'intéressait c'était la manière dont elles utilisaient l'humour en fait pour faire passer des messages féministes. Et donc quand j'ai voulu faire ce film, j'ai cherché des humoristes qui avaient vraiment travaillé sur le harcèlement, sur le viol, sur la question des droits des femmes, enfin qui faisaient des sketchs, qui faisaient rire sur des sujets qui sont pas toujours drôles, notamment une humoriste africaine. Rukyata Ouédraogo qui fait un sketch sur l'excision. C'est dingue qu'elle puisse parler de ça sur ce ton-là. Et je pense qu'elle arrive du coup à ouvrir les esprits des femmes qui l'écoutent. Et donc le but de ce film pour moi, de ces humoristes, c'était d'abord s'amuser parce que je les trouve drôles et moi ça me touche. Ça me touche qu'elles fassent de l'humour avec des trucs qui moi me dévaste. Enfin, je sais pas, moi j'ai peur le soir, la nuit, quand je suis toute seule, dans la rue, partout, et elles font des blagues là-dessus, et ça me... Waouh, je suis contente, en fait, qu'on en rit à plusieurs, parce que je me sens moins seule. Donc je crois que l'humour a vraiment cette qualité de nous relier, et de nous permettre de créer une communauté. On rit ensemble, du coup, les choses sont plus supportables. Et ce faisant, évidemment... je découvre aussi tous les problèmes qu'ont les femmes humoristes pour s'imposer comme femmes humoristes. À quel point les plateaux sont réservés aux hommes. Quand il y a une femme sur un plateau, il y a 10 hommes. Elles se font maltraiter sur les réseaux sociaux. Dès qu'elles parlent de problématiques de femmes, on leur dit « Ouais, mais les femmes, vous voulez vous parler que de trucs de femmes ?» Enfin bon, comme si les hommes ne parlaient pas que de trucs d'hommes. Donc voilà, c'est de nouveau un endroit où on voit que ce clivage, en fait, est fort. C'est aussi quelque chose de l'époque. Où à partir du moment où les femmes demandent des droits et demandent à ne plus être violentées et à pouvoir avoir une parole libre et à se réaliser pleinement, ça enlève évidemment des privilèges, des prérogatives aux hommes. Et donc on est dans un moment où cette tension est forte. Et ça s'exprime dans le film. Parfois les gens me demandent en fait, ce qui relie mes films, parce que j'ai fait quand même des films sur des sujets assez différents. En regardant cela de plus près, je me suis rendu compte que c'est tout le temps la question de la réalisation de soi qui vient dans ces films, qui intervient dans ces films. Par exemple, j'avais fait un documentaire sur le suicide des adolescents. Et en fait, ces jeunes, pourquoi ils veulent se foutre en l'air ? Mais parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à être eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se trouver, à se réaliser. Et que ce soit la question des femmes qui veulent devenir prêtres, des femmes qui veulent devenir humoristes, de ma grand-mère qu'on a empêchée de vivre comme elle l'aurait voulu, de ces aveugles qu'on met dans une catégorie de handicapés alors qu'ils ont une vie intérieure tellement riche. Et c'est toujours la question de, effectivement, comment, au-delà des obstacles, des épreuves qu'on traverse, comment est-ce qu'on devient soi-même ? Comment on se réalise ? Qu'est-ce qui fait qu'on parvient à exister en tant que soi-même ? Et ça, c'est vraiment, je crois, le cœur de mon travail.
Vous venez d'écouter Les Glaneuses, le podcast qui s'immisce au creux de la vie de réalisatrice. Ce podcast est une production de Synergie et de la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez retrouver les épisodes sur synergie.be et sur vos applications de podcasts.